Je pense que la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Le grand avantage du digital, c'est aussi son pire inconvénient. Il permet de quasiment tout faire, mais du coup, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et c'est un vrai problème parce que soit on s'éparpille, ou alors on reste bloqué à rien faire, et ça, c'est pas possible. C'est vraiment trop dommage de passer à côté de tout ce que le digital peut nous apporter. Alors j'ai créé un mini-programme, 5 jours. Je vous donne 5 jours pour remettre à plat votre stratégie digitale. Rien de compliqué, je vous envoie un mail par jour avec à chaque fois un élément essentiel à mettre au clair dans votre stratégie. Et je vous promets qu'au bout d'une semaine, vous y verrez beaucoup plus clair. C'est gratuit, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste entre nous, mais ça pourrait changer la trajectoire de votre marque. Pour recevoir mes emails, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/5 jours. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 100. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Cet épisode est un peu particulier, vous l'avez entendu en introduction, il s'agit du 100e épisode du podcast du marketing. 100 épisodes. J'avoue avoir un peu de mal à réaliser, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement fière de ce podcast, de tous les invités que j'ai pu y recevoir et de la communauté super bienveillante que vous composez. Alors pour ce 100e épisode, évidemment, je voulais marquer le coup et faire quelque chose d'un peu spécial. L'objectif du podcast du marketing, c'est d'abord d'aider les entrepreneurs à développer leur activité grâce au marketing. Parce que vous êtes spécialiste de votre domaine, mais que votre domaine, c'est pas nécessairement le marketing, sauf que vous avez besoin du marketing pour construire votre business. Bref, vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous prendre la main et de vous donner les clés de votre stratégie digitale. Et ça, je ne vais pas le faire en un épisode, même avec la meilleure volonté du monde, j'y suis pas arrivée. Donc je vous propose une mini-série. On part ensemble pour 3 épisodes durant lesquels je vais faire revivre les interventions des 10 invités que vous avez préférés et surtout qui vont vous permettre de repenser votre stratégie. Sur ce premier épisode, on va se focaliser sur le mindset parce que vous le savez, votre état d'esprit joue énormément sur votre réussite. Le mindset, c'est un élément fondamental à travailler. Le deuxième épisode sera consacré à votre communication et le troisième, à votre développement commercial. Et puis bien sûr, qui dit 100e épisode, dit super cadeau bonus. Je vous ai compilé dans un document ultra complet les résumés des interventions de ces 10 invités. C'est-à-dire que vous avez littéralement un condensé de ce qui se fait de mieux en termes de stratégie et de marketing digital. On est en train de parler des conseils de Pauline Legnaud, de Mathieu Stéphanie, d'Aline Bartoli, de Grégoire Gambato, de Béatrice de Monti, de Guillaume Moubèche, de Jenny Chamas, de Max Piccinini, de Caroline Mignot et d'Alexis Minkela. La crème de la crème. Pour le télécharger comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/cadeau100. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite notre premier épisode de la série et on va parler de mindset. On commence avec Alexis Minkela que j'ai reçu sur le podcast du marketing au moment de la sortie de son livre « Freelance, une aventure dont vous êtes le héros ». Alexis a tenu à commencer son livre par le côté sombre de l'entrepreneuriat, à savoir les peurs. Ces peurs qui nous ralentissent, voire parfois qui nous paralysent et qui empêchent nombre d'entreprises de voir le jour. Et l'une des peurs qu'il évoque, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. On en parle souvent de ce syndrome, mais Alexis propose une façon assez atypique de le recevoir et il en donne une vision vraiment rafraîchissante et rassurante. Écoutez.
Tu nous parles de 4-5 grandes peurs. Est-ce que la première à laquelle je pensais, c'était la peur de, et je pense que c'est le cas pour plein de gens, la peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça veut dire quoi?
Oui, bien sûr. Mais tu vois, en fait, moi, je l'ai vraiment ressenti et du coup, ça me touchait vraiment et j'avais vraiment à cœur de parler de ça dès le démarrage parce que, en fait, c'est généralement les premières peurs. c'est généralement ce qui te bloque à passer à l'étape supérieure, à mettre un pas après l'autre et en fait de te lancer vraiment dans l'aventure. Donc c'est pour ça que j'ai insisté pour vraiment l'avoir ça dès le premier chapitre. Et toutes les peurs dont je parle, c'est pour le coup des peurs que j'ai vraiment vécues. Je sais pas si tu l'as ressenti, en tout cas la lecture de ce que tu as pu lire sur le premier chapitre, mais tu vois, c'est vraiment des sujets qui me parlent parce que je me suis beaucoup questionné là-dessus. Et effectivement, tu vois, quand tu te lances, t'as une sorte de grosse angoisse, quoi. Tu te dis, mais attends, en fait, je suis qui? Moi, quand je me suis lancé, j'avais 24-25 ans. En fait, je suis qui pour aller vendre mes prestations à des entreprises, à facturer plusieurs milliers d'euros, alors qu'en fait, j'ai pas 15 ans d'expérience. Tu vois, je connais pas toutes les méthodes de travail, etc. Et en fait, tu vois, en discutant avec beaucoup de freelance en dehors du podcast, mais aussi grâce au podcast Tribu Indé, je me suis rendu compte que, en fait, on avait tous cette peur, en tout cas au démarrage, de pas forcément être à la hauteur, de se dire qu'on va pas y arriver et que personne va nous faire confiance. Et tu vois, je suis tombé sur une statistique qui est assez intéressante, de se dire sur le syndrome de l'imposteur, tout le monde le connaît. Mais tu vois, moi, je n'étais pas au courant qu'il y a plus de 70% des personnes qui le ressentiront au moins une fois dans leur vie.
Ouais. J'ai découvert ça aussi, c'est fou, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un élément, souvent quand on le ressent, on a l'impression d'être seul au monde à se sentir comme ça, et en fait c'est un truc extrêmement humain, quoi. On est tous, quasi tous, sujets au syndrome de l'imposteur, donc c'est pareil, on a le droit de le recevoir sereinement, finalement.
Exactement, et tu vois, en fait, c'est ok de dire que tout le monde doute de ce qu'il est capable de faire ou d'accomplir, et c'est ok en fait d'avoir le syndrome de l'imposteur. Et moi, je prends un peu une approche un peu contre-intuitive là-dessus, où généralement on te dit, voilà, comment est-ce que tu peux affronter ce syndrome de l'imposteur, comment est-ce que tu peux le combattre, etc. Moi, je prends un peu le contre-pied de me dire, en fait, il faut aussi assumer parfois que oui, en fait, on est un imposteur. Oui, quand j'ai lancé le podcast, j'étais un imposteur parce que j'étais pas un podcasteur professionnel. Oui, quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais pas un auteur professionnel, et donc en fait c'est ok. Donc plutôt que de, tu vois, à tout prix essayer de lutter contre ce syndrome, de se dire qu'en fait on est les meilleurs, etc., je pense qu'il faut, c'est une question de posture et de se dire, ok, ben en fait je suis pas le seul et je serai jamais le seul dans ce cas là sauf que peu de gens en parlent, mais je sais que certains et beaucoup vont avoir ce syndrome de l'imposteur là. J'assume ça. Et d'ailleurs, dans le livre, effectivement, tu vois, je prends volontairement des exemples un peu extrêmes, un peu de superstars dans différents domaines, pour montrer qu'en fait ça n'arrive pas qu'aux gens lambda comme toi et moi, tu vois. Je prenais souvent des exemples de...
Ouais, vas-y, j'allais t'en parler, parce que moi j'ai trouvé ça fou, hein. Je savais pas, tu parles de Serena Williams notamment.
Exactement, et d'ailleurs je te conseille le documentaire sur Netflix qui retrace une de ses dernières années vraiment au haut niveau. Et en fait, elle a pendant très très longtemps, elle a copié sa sœur, en fait. Elle a copié sa sœur Vénus pour essayer de faire la même chose, parce que elle savait pas vraiment ce qu'elle faisait, elle se sentait pas à sa place. Il y avait aussi le regard de sa sœur. Tu vois, tu te juges en permanence. Je parle aussi de Howard Schultz, qui était quasiment plus de 20 ans le PDG de Starbucks. Bah, tu vois, ça a été son premier grand rôle dans le monde de l'entreprise. Tu vois, c'était la première fois qu'il était PDG. Bien sûr que personne et rien ne le préparait à être PDG d'une boîte qui pèse plusieurs milliards dans le monde, tu vois. Et en fait,
avant de l'être, tu l'es pas, quoi.
Exactement. Et en fait, c'est ça c'est vraiment pour appuyer le fait que le syndrome de l'imposteur et le fait de pas être à l'auteur, ça touche tout le monde, quoi. C'est pas parce que t'arrives à un haut niveau, que ça soit dans le monde professionnel, dans le monde artistique, dans le monde sportif, que tu n'es pas toujours en train de douter. Sauf qu'effectivement, ça, c'est toujours la face cachée dont personne parle vraiment, mais qui existe pourtant. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai volontairement, et c'est d'ailleurs la seule fois où je prends un peu des superstars dans le livre, pour volontairement montrer que ça n'arrive pas qu'à des gens comme vous et moi, on est plutôt lambda par rapport à des Maya Angelou, à des Lady Gaga qui sont aujourd'hui des superstars mondiales, quoi.
Ouais, non, mais tu vois, je pense que t'as vraiment bien fait de le faire. Moi, ça m'a marqué quand je l'ai lu. Et pourtant, tu vois, je me suis pas mal documentée sur le syndrome de l'imposteur. J'avais fait un épisode sur le podcast du marketing là-dessus. Et j'avais pas en tête quand même ces émois. C'est-à-dire que quand j'ai lu Serena Williams, Lady Gaga, tu te dis, mais sérieusement, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des reines, tu vois. Je sais pas, tu penses Serena Williams, tu te dis, mais c'est pas, voilà, c'est des monstres sacrés dans leur domaine. Et quand même, malgré tout ça, elles ressentent ce syndrome de l'imposteur. Et je trouve que c'est extrêmement apaisant de lire ça, parce que d'un coup, tu regardes ta petite personne un petit peu plus sereinement en disant, attends, ça va.
Exactement.
Si Lady Gaga flippe, j'ai le droit de flipper aussi, quoi.
Et d'ailleurs, les citations que je cite sont vraiment, enfin, c'est pas des citations que j'ai inventées. C'est vraiment, par exemple, pour Lady Gaga et Serena Williams, c'est extrait de leurs deux documentaires qui sont sur Netflix. Maya Angelou, c'est une auteure que j'aime beaucoup et j'avais lu un certain nombre d'interviews dans lesquelles j'étais tombé dessus. Sur Howard Schultz, c'était sur un documentaire sur Starbucks aussi où il en parlait. Donc, c'est vraiment des choses qui sortent de leur bouche, quoi. Et ça, c'est assez dingue. Et en fait, je fais aussi le parallèle, tu vois. Quand par exemple, tu cherches un job, quand tu postules par exemple un CDI ou un CDD ou voire même un stage quand t'es étudiant, en fait, tu te poses pas vraiment la question de est-ce que t'es à la hauteur ou pas. En fait, tu vas répondre à une annonce de job, tu vas mettre ton CV, ta lettre de motivation, et puis tu vas essayer de passer les étapes les unes après les autres, l'étape de qualification, les premiers appels, et puis tu vas avancer dans le processus. Mais je trouve que tu te poses beaucoup moins la question quand tu recherches un emploi de savoir si t'es à la hauteur ou pas, versus que par exemple tu te lances dans l'indépendance, alors que si tu prends un pas de recul là-dessus, c'est un petit peu le même process. Alors ouais. Bien sûr, t'es pas en train de postuler à une offre, etc. Mais si tu veux, c'est un peu la même idée, c'est que tu vas essayer de convaincre ton interlocuteur, ton client, que t'es la bonne personne pour l'aider. Et donc en fait, t'es dans le même schéma t'es dans le même processus de travail et de réflexion que quand tu cherches un job en CDI. Et donc c'est intéressant de voir que quand il y a plus de carcan, quand il y a plus de route bien tracée, en fait, tu doutes encore plus que quand tu es dans le monde un peu plus classique où tu réponds à des annonces et que t'as moins le temps de te poser la question de ah mais est-ce que je suis vraiment légitime pour postuler, etc. Tu te poses beaucoup moins cette question-là, en fait.
J'adore cette vision qu'a Alexis de se dire que tout le monde, finalement, est touché par le syndrome de l'imposteur, que ce soit vous et moi ou que ce soit des stars comme Lady Gaga et Serena Williams. Et puis en plus, il rajoute une couche en se disant que finalement, ben, tout ça, c'est surtout une question de perception et qu'on est à notre place si on décide d'être à notre place, tout simplement. Alors maintenant qu'on a parlé de nos peurs, je vous propose qu'on parle de nos rêves. Et la meilleure personne pour parler de ce sujet, à mon sens, c'est Max Piccinini. Parce que Max, c'est une personne qui a une énergie incroyable et une attitude positive chevillée au corps. Il m'a dit un truc qui résonne encore en moi, il m'a dit « Aucun enfant ne rêve petit, tous les enfants rêvent grand. Ils veulent être astronautes, princesses ou superstars. C'est avec l'éducation en fait qu'on nous apprend que tout n'est pas possible, qu'on ne sera probablement pas président de la République et qu'on n'ira pas sur Mars. On nous l'a répété, 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 il faut être raisonnable. » Le problème, ben, c'est qu'un rêve, c'est pas compatible avec la médiocrité ou même la moyenne. Personne ne rêve d'une vie moyenne. Alors, il faut réapprendre à rêver grand. Et quand Max dit réapprendre, il pèse ses mots. Il faut littéralement reconditionner notre cerveau. Il nous explique comment faire en 3 étapes.
Et on doit reprendre le contrôle en cassant notre cerveau, et c'est à nous de dire à notre cerveau et de le rassurer, de dire que c'est ok, tout va bien se passer, je vais pas mourir et je vais réaliser mes rêves. Donc c'est en effet du travail, et donc ça se conditionne, c'est typiquement, c'est mon métier, c'est d'aider les gens à prendre conscience de leur schéma, de leurs croyances, de leurs limites, de leurs peurs. Ça c'est l'étape numéro 1, prendre conscience. Numéro 2, c'est de casser le schéma. Donc c'est de faire quelque chose de surprenant, utiliser des stratégies, ça peut être un élastique, ça peut être mettre une baffe, ça peut être faire un rire ou une phrase qui va casser le schéma. Et finalement, troisième, c'est de faire une sorte de répétition pour reconditionner ces nouvelles croyances, ces nouvelles pensées, jusqu'à ce qu'elles soient automatiques. Donc ça, on peut le faire par... Oui, vas-y.
Attends, excuse-moi, je te coupe parce que t'es passé vite sur cette histoire-là de l'étape 2. Donc l'étape 1, c'est, tu disais, d'en prendre conscience, hein, c'est ça ?
C'est correct.
Étape 2, c'est d'avoir quelque chose qui nous arrête, si j'ai bien compris. Qui casse le schéma. Et tu disais, ça peut être une baffe, ça peut être... C'est... Là, tu peux développer un peu, parce que là, j'ai pas tout suivi.
En marketing, toi qui connais le marketing très bien, c'est le pattern interrupt. C'est le fameux... c'est comme on va sur un feed de Facebook. Bah, s'il n'y a rien qui nous interrompt, mm-hmm. qui nous surprend, on va pas continuer. Donc, d'un coup, il y a une image flashy où il y a, je sais pas, quelque chose de rigolo ou quelque chose qui nous fait peur. Et là, le cerveau va immédiatement faire attention, il faut que je fasse attention à ça. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, en tout cas, moi, dans la partie psychologique et la partie coaching. C'est qu'une fois que la personne a compris ça, je vais l'aider à trouver une stratégie pour casser son schéma. Donc, parfois, quand je le coach, je vais le faire moi-même, en faisant une blague, sortant un truc qui a rien à voir, en criant, faire quelque chose de complètement surprenant. Mm-hmm. Ce qui a fait, le cerveau va être en alerte.
Va se réveiller, en fait.
Il va se réveiller, il va dire attention, il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, quand on se répète des choses comme je vais pas y arriver, je suis nul, je vais pas y arriver, je suis nul, par exemple, c'est un schéma. Il a été répété sans cesse et on croit que c'est vrai, mais c'est faux. C'est juste en neurosciences, c'est la pure C'est une pure autoroute neuronale. Et donc, ce que j'aime bien faire quand on casse ce schéma, c'est en gros dynamiter l'autoroute. Et on va faire quelque chose de sacrément surprenant. Donc, par exemple, pour moi, pour me casser ces phrases-là, j'utilisais un élastique pour la main. Où je mettais une baffe. Je disais, je ne vais pas y arriver. Boum, je mettais une baffe.
Ah, quand tu te prenais toi-même à te dire, tiens, je ne suis pas bon, je ne vais pas y arriver, bim, tu te mettais un coup d'élastique pour te physiquement te dire, attention, réveille-toi, tu es en train de te raconter des bêtises.
Le cerveau soit en choc. Et à un moment, il ne va pas. Arrête de dire ça. Et donc, au fur et à mesure de faire ça, c'est comme si je mettais des dynamites, ou j'appelle ça aussi rayer le disque. On raye le disque de cette vieille musique qui tourne, et à un moment, ça va être. Je suis dur. Et donc, le cerveau, quand il a quelque chose de nouveau et de surprenant et de choquant, il va être beaucoup plus en alerte. Et d'accord. C'est à ce moment-là qu'on peut reconditionner quelque chose. Et souvent, en psychologie, c'est ce qui manque. C'est que les gens essaient de passer, ou souvent quand on parle de visualisation ou d'affirmation, il y a cette étape 2 qui est fondamentale qu'on oublie, parce qu'on essaie de rajouter une nouvelle musique sur une ancienne musique.
Mais ouais.
Et l'ancienne musique gagne toujours. Parce que le cerveau, c'est plus rationnel. Il dit, ah, attention, j'ai survécu pendant 20 ans avec ça, ou 30 ans. Tu m'envoies cette nouvelle musique. La nouveauté pour le cerveau, c'est toujours un danger. Donc, bien il n'aime pas. Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser. On va dire, il faut utiliser le langage de son cerveau et c'est de le surprendre. Donc, je donne un exemple très concret. Ce qui est émotionnellement fort, on le retient. Le cerveau est en alerte. Donc, je vais me dire, si je pose la question, où vous étiez exactement, vous avez appris le 11 septembre.
Ouais.
Tout le monde se rappelle exactement bien où j'étais. J'étais en voiture, j'habitais en Alsace, je rentrais à la maison. Et par contre, si je dis à la même heure le lendemain, vous étiez où? Ou à la même heure on s'en vient pas, on se rappelle toujours son premier baiser. Donc, quand on fait quelque chose de surprenant comme prendre un élastique ou se mettre une baffe, le cerveau va se souvenir de ça. Il y a une sorte d'électrochoc qui se crée. Oh, attention. Et à un moment, je répète, là, c'est la troisième étape, c'est de répéter cette nouvelle affirmation, en quelque sorte. Cette nouvelle croyance, si on veut. Si je suis possible. Alors, avant, j'étais, c'est pas possible pour moi. Si, c'est pas, je me mettais une baffe et après, si c'est possible pour moi, je suis capable. Ça a l'air bête, ça. Mais au bout d'un moment, ça fonctionne. Le cerveau commence. Ça marche par répétition. Donc, je vais bien dire, c'est comme appuyer sur le bouton record, le bouton rec, comme on a tous vu ce bouton rouge.
Ouais.
Répétition, émotion et conviction. Quand on répète avec émotion et conviction des choses, on commence à le croire. À condition, bien sûr, si on a rayé son disque avant, on a interrompu son schéma, on a fait quelque chose de surprenant. Donc, c'est vraiment une méthode extrêmement simple, mais c'est redoutablement efficace.
Ouais, ce que tu dis, en fait, hein, c'est que ce cerveau, il faut l'entraîner et il a un certain nombre de croyances qui sont existantes, mais on peut tout à fait changer ses croyances. Mais alors pour changer ses croyances, il faut effectivement commencer par effacer un petit peu ou en tout cas casser ce qu'il a cru jusqu'à maintenant pour pouvoir réécrire quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on a la main sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est quand on y pense comme ça, quand on réalise ce point-là. Enfin, moi, je sais que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais en fait, j'ai un pouvoir immense. Tout ce que je pense être préexistant, finalement, j'ai peut-être la main dessus. Et je trouve ça assez, c'est un peu vertigineux aussi, hein, d'ailleurs, quelque part. Tu te dis,
mais c'est ça qui est maître de son cerveau et maître du monde. Quand on dit maître du monde, montre maître de son monde.
Bien sûr.
La seule chose qu'on peut au passage changer, c'est assez intéressant, parce que le réflexe de l'humain, quand quelque chose ne va pas dans sa vie, c'est de vouloir changer l'extérieur. Ouais. On veut changer les autres, on veut changer son mari, on veut changer son épouse, on veut changer ses enfants, on veut changer sa politique, on va râler auprès du président. Mais ceux-là n'ont aucun pouvoir par rapport à notre vie. La seule chose qu'on peut changer dans notre vie sont nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est réellement les trois choses qu'on peut changer. Tout le reste, on a zéro contrôle. Voilà, c'est qu'on passe notre vie à chercher à contrôler les autres et l'extérieur. Alors, quelque chose que c'est contrôler soi-même. Donc, une fois qu'on, enfin, je pense que c'est absolument une obligation avec tout le monde, et ça, je pense que c'est une de mes grandes missions d'ailleurs, que chacun doit apprendre à comprendre avant tout son cerveau et apprendre à se reprogrammer. Je parle bien du terme reprogrammer ou reconditionner, comme nous on a été conditionné de manière inconsciente en tant qu'enfant, mais cette fois-ci on va se reconditionner comme nous on veut.
Se reconditionner comme nous on veut. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que cette vision des choses nous donne une liberté folle, une liberté vertigineuse. On a la main sur le fonctionnement de notre cerveau. On contrôle nos pensées, nos émotions et nos actions. Alors, il y a bien une chose qu'on ne contrôle pas, c'est la chance. Ben oui, mais non. J'ai eu le très grand plaisir de recevoir au micro du podcast du marketing Béatrice de Monti, qui est à la tête de Merci Maman, une marque de bijoux. L'histoire commence lorsque Béatrice se rend compte que Pipa vient de lui commander un bijou Merci Maman. Quand je dis Pipa, je parle bien sûr de Pipa Middleton, la sœur de Kate Middleton, l'épouse de William, futur roi d'Angleterre. Ça pose tout de suite les choses.
Donc, truc de dingue, un membre de la famille royale devient client de sa marque. Gros coup de chance. Mais suivez bien ce que Béatrice va nous dire, parce que ça ne s'arrête absolument pas là, et vous allez voir que la chance, ça se cultive. Cette histoire est incroyable, c'est en même temps une immense leçon d'entrepreneuriat, de calme, d'organisation et de vision. Et à titre tout à fait personnel, la maman que je suis a été extrêmement touchée par la personnalité de Béatrice et sa capacité à allier une vie professionnelle trépidante avec une vie de maman investie et épanouie. Je vous laisse écouter l'histoire de Béatrice et de comment elle construit sa chance. Donc, Pippa commande, tu contactes Pippa, etc., tu rentres en contact et tu lui dis, je voudrais offrir un bijou à Kate pour le
bijou, ça s'est passé quelques mois plus tard. Ça s'est passé au moment de la naissance, donc c'était peut-être 6 mois après ce premier échange de mail. Où là, on l'a félicité d'être devenue tante et on lui a envoyé, je crois, 2 bijoux d'ailleurs, il me semble, un bijou pour sa sœur et un bijou pour elle.
Ouais.
Voilà.
Oh, super.
Et pendant plusieurs mois, on n'a pas entendu parler. D'ailleurs, elle ne nous a pas répondu à ce moment-là. Donc, au moment où la photo est sortie, c'était 6 mois après la naissance du prince George.
Ah ouais, d'accord.
Le prince George est né en juillet 2013 et la photo, on l'a découverte en février 2014. Donc, on pensait que c'était fini, qu'elle ne l'avait pas transmis, que jamais on ne verrait ce collier autour de Kate. Du coup, de Kate. Et comme quoi, il faut être patient et les bonnes choses arrivent.
Mais c'est clair. Oui, puis, enfin, objectivement, on pouvait se dire qu'effectivement, très probablement, Pippa, elle a dû recevoir 1000 cadeaux, que Kate, j'en parle même pas, ça devait se compter en centaines de
oui,
cadeaux.
Oui, alors les cadeaux que Kate reçoit, elle est obligée de les renvoyer, elle n'a pas le droit d'accepter les cadeaux, Kate.
Ah, mais il faut le savoir, ça, déjà. Donc, c'est pour ça est-ce que c'est pour ça que tu ne l'as pas envoyé directement à Kate et que tu es passée par Pippa?
Oui, je savais que ça serait impossible de l'envoyer directement. Donc, c'est pour ça qu'on était tellement heureux d'avoir cette entrée via Pippa.
Génial. Ouais, donc c'est quand même... Enfin, c'est clairement préparé. Enfin, c'est clairement préparé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de coup de peau qui est que Pippa apparaît dans la liste de tes clientes. Mais après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de réflexion derrière. Tu nous disais, oui. Je réfléchissais à, tiens, on va faire un collier parce qu'un bracelet, ça risque de pas se voir, etc., etc.
Oui, on a bien potassé notre histoire. Et puis, il y a une expression anglaise que j'aime bien rappeler, c'est « make your own luck ». Donc, c'est fabriquer votre chance. Et je pense que c'est vrai que dans la vie d'un entrepreneur, il y a une partie de chance. Ça, j'en suis assez convaincue. Mais on peut provoquer la chance et c'est arrivé 6 ans après la création de Merci Maman et c'est vrai que ça faisait déjà 6 ans qu'on chérissait nos clientes, qu'on faisait attention aux moindres détails et c'est pas arrivé non plus complètement par hasard. Voilà, c'est certain. C'était aussi l'aboutissement d'heures de travail en sourdine, en souterrain pour que le produit de Merci Maman soit de qualité, que le packaging soit impeccable, qui marque les esprits, etc.
Alors ça, alors 100% d'accord avec toi. Enfin, c'est sûr qu'il y a de la chance, mais comme dans la vie en fait, hein, dans la vie de tous les jours, il y a des moments de chance. Il faut savoir les saisir d'une part, et puis il faut savoir les transformer. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait que Pippa passe une commande, comme tout le monde, j'imagine, elle commande des articles régulièrement. C'est pas pour ça que ça a systématiquement un retentissement. Et là, il a fallu déjà la contacter, rester un petit peu en lien avec elle, et puis savoir. Enfin, je savais pas cette anecdote-là que Kate n'a pas le droit de recevoir des cadeaux. Donc, savoir qu'en fait, il fallait passer par elle pour avoir une petite chance qu'éventuellement Kate le mette. Et puis, gros coup de chance là pour le coup, que Kate soit photographiée. Bon, ça, j'imagine qu'elle est photographiée souvent, mais surtout que tu viennes à savoir.
Elle sortait de Zara Home, elle avait fait des emplettes et bing, elle a été prise en photo. Après, il y a aussi.
Prise en photo, c'est une chose, mais que tu le saches.
Oui, ça c'est vraiment le hasard de toutes les rencontres. Moi, j'adore quand on relit sa vie, on se rend compte de toutes ces rencontres. Toi, tu en es une d'ailleurs, parce qu'on s'est rencontrées toutes les deux il y a 15 ans lors d'un mariage. Et puis voilà, 15 ans plus tard, tu me recontactes. Moi, je crois tellement à l'humain et aux relations humaines. Je trouve qu'en ce moment, d'ailleurs, avec ce contexte de Covid, on en est encore plus conscient. Ça nous manque tellement d'être, de pas pouvoir être en relation avec les autres comme on le voudrait. voilà, dans la vie, c'est vrai qu'il faut... Cette maman qui m'appelle ce soir-là de l'école en me disant qu'elle a découvert cette photo, c'est aussi parce que j'avais tissé des liens à l'école avec d'autres personnes. Donc, on ne perd jamais son temps. Parfois, on peut penser que quand on s'occupe de ses enfants, on n'est pas au boulot et qu'on rate des opportunités. Ben, là, typiquement, c'est parce que j'étais pas au boulot, mais à la cour de, à la sortie de l'école et que j'avais tissé des liens avec des mamans, que, ben voilà, que tout cet épisode s'est transformé en réalité et en succès. Donc, il faut vraiment se nourrir de toutes nos expériences. Et le travail, c'est pas uniquement quand on est devant son ordinateur. C'est vraiment tout ce qu'on fait en dehors, quand on va visiter une expo, quand on va se nourrir, quand on va faire du sport, on réfléchit, on brainstorm. Voilà, tout ce qu'on fait, en fait... C'est un puzzle qui se construit petit à petit. Et c'est vrai que quand on a 40 ans, moi j'en ai 43 aujourd'hui, je trouve ça fascinant de voir tout ce qui s'entremêle. Je trouve ça génial. Moi j'aime bien les petits signes. Je suis très attentive aux petits signes. Et je pense qu'il faut prendre le temps de la relecture. J'aime bien le soir réfléchir à ce qui s'est passé dans ma journée, à retenir 2-3 événements quand j'ai la tête sur l'oreiller, les yeux fermés. Et c'est ça, je pense qu'il faut prendre le temps de créer des liens, prendre le temps de relire les épisodes de nos journées, parce que tout se construit petit à petit. C'est un chemin qui est tellement intéressant, tellement passionnant. Après, c'est vrai qu'on a aussi transformé l'essai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui ont la chance, à un moment ou à un autre, d'avoir une relation avec Kate Middleton et qui n'arrivent pas forcément à transformer l'essai. Et là, ça a été un peu notre chance aussi. C'est que j'ai partagé cette photo sur mon Facebook perso en mettant juste Yalla, la photo de Kate, avec un commentaire Yalla. Et là, c'est une autre maman de l'école, anglaise cette fois-ci, puisque j'habitais à Londres, qui m'écrit tout de suite en me disant « Béatrice, je travaille chez Hello Magazine. S'il te plaît, ne parle à personne de cette photo. Je vais voir si je peux en parler à l'éditrice de la famille royale. Je suis persuadée que cette histoire va l'intéresser. » Parce que nous, cette photo de paparazzi, on pouvait rien en faire. Or, le fait de pouvoir raconter...
C'est pas ta photo.
Non, j'avais pas les droits, je pouvais rien en faire. Mais le fait que j'en parle à l'éditrice de la famille royale, qui en plus a pas envie de se griller avec la famille royale, donc je savais qu'en parlant à cette personne-là, je rentrerais dans les cordes de ce qu'il était possible de faire. J'ai raconté cette histoire à cet ami, on a fait un press release, on a envoyé ce press release à cette éditrice, et ils nous ont demandé 15 jours de... Comment on appelle ça?
D'exclusivité.
L'embargo, voilà, l'embargo. On n'a rien dit. Et nous, en fait, ça nous a donné 15 jours pour préparer la logistique.
Mais bien sûr. Mais oui, parce que c'est ça. C'est que si tu... Enfin, quand Kate, on le sait maintenant, hein, quand Kate porte quelque chose et que ça se sait, c'est la folie. C'est-à-dire que les Anglais, les Anglaises notamment, sont assez dingues de tout ce que fait Kate. Et en général, voilà, tout le monde veut porter, veut acheter ce même article. Donc, c'est une espèce de tsunami qui potentiellement arrive sur ton site internet.
Oui, et puis ce qui nous a surpris, c'est que le tsunami, il n'était pas uniquement anglais, en fait.
Ah.
Le premier tsunami, il a été américain, parce qu'à partir du moment où l'article a été publié dans Hello Magazine, nous, on l'a partagé sur nos réseaux sociaux pro, et à ce moment-là, c'est parti dans tous les sens, et le premier matin, on se réveille, et là, plein de commandes des États-Unis. Parce que les Américains qui n'ont pas tout cet héritage de la famille royale, puisque c'est un pays bien récent. Je pense qu'ils sont très friands de la royauté anglaise, ils suivent ça de près et en effet, il y a plein de blogs qui suivent la princesse au quotidien et là on a ça, c'est parti en feu d'artifice notamment aux États-Unis et 2 mois plus tard, en fait c'est assez improbable, mais le jour où on a découvert la photo de Kate, le lendemain on attendait Envoyé spécial qui venait faire un reportage à Londres sur les conditions de travail, les contrats de travail, la flexibilité du travail en Angleterre.
Attends, pardon, pause. Là t'es en train de me dire que... Ah ouais, non mais ça devait être complètement dingue, c'est-à-dire qu'il y a une photo qui sort avec Kate Middleton qui porte l'un des colliers Merci Maman et le lendemain, il y a Envoyé spécial qui venait faire un reportage chez vous. Explique-moi comment Envoyé spécial vient faire un reportage chez vous.
C'est une énorme coïncidence. quelques mois plus tôt, Arnaud, mon mari, avait rejoint l'aventure avec un objectif, c'était de développer Merci Maman à l'international. Il voyait bien que je commençais à avoir les épaules bien chargées de déjà tout ce que j'avais à gérer. Lui, il trépignait depuis déjà 3 ans de me rejoindre dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, quelques mois avant qu'on découvre la photo de Kate, Arnaud avait rejoint l'entreprise pour développer à l'international. Autant te dire que ce petit coup de pouce de Kate a été... ça a été en fait la bascule. C'est le moment où Merci Maman est d'une marque complètement anglaise est devenue une marque internationale, peut-être pas, mais en tout cas connue partout dans le monde, et surtout une marque européenne, parce qu'en effet Arnaud, en rejoignant Merci Maman, avait décidé de rejoindre la chambre de commerce franco-anglaise à Londres, et c'est eux qui nous avaient mis en relation avec Envoyé Spécial. Comme quoi, tous les réseaux, tout ça, c'est tellement important. Cultivez vos réseaux à fond. La Chambre de commerce nous donne notre nom à Envoyé Spécial. Envoyé Spécial vient. Ils arrivent, c'était un mercredi matin. Ils nous disent, vous faites comme si on n'était pas là. C'est une journée comme les autres. Et on leur a dit, non, c'est pas du tout une journée comme les autres. On vient de découvrir la photo de Kate Middleton portant notre création. Donc, Envoyé Spécial, eux, ils avaient besoin de 2 mois pour monter leur reportage et le diffuser. Nous, ça nous a donné 2 mois. Après le buzz, finalement, il y a eu Envoyé Spécial. 15 jours plus tard, Hello Magazine, le buzz américain. Et 2 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, on était prêts avec un site français. Donc, on a commencé notre site français avec le reportage d'Envoyé Spécial et le buzz de Kate Middleton. Donc, à nouveau, 1 mois et demi plus tard, on fait un nouveau buzz en France. Et donc, on devient en 2 mois une marque européenne. Voilà.
Est-ce que cette femme n'est pas juste formidable ? Je reste encore sans voix face à son organisation méticuleuse et sa capacité à garder la tête froide malgré un enchaînement d'opportunités qui aurait désarçonné plus d'un entrepreneur, croyez-moi. En tout cas, elle nous prouve que la chance, ça ne se contemple pas, ça se construit. On arrive à la fin de ce premier épisode de la série. Aujourd'hui, on a parlé de mindset. La semaine prochaine, on parlera de communication avec Pauline Legnaud, Mathieu Stéphanie, Grégoire Gambato et Aline Bartoli. D'ici là, n'oubliez pas de télécharger votre super cadeau bonus qui résume les conseils de mes 10 meilleurs invités. Pour le télécharger, vous allez sur lepodcastdumarketing.com/cadeau100. Je vous dis à très vite.